La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous êtes ici chez vous, c'est Appel sur l'actualité, votre émission, c'est parti pour une nouvelle semaine avec notre débat. Ce matin, dans une demi-heure, on parle de la place des femmes dans les cercles du pouvoir, politique, économique. Où en est-on? Nous attendons vos réactions. On a vu ce débat ressurgir la semaine dernière au Kenya lorsqu'une députée a été expulsée du Parlement. Elle avait emmené son bébé, faute de crèche. Et alors même que la loi kenyane oblige le Parlement à avoir une salle familiale depuis 2013, rien n'a été fait. Alors y a-t-il un manque d'infrastructures, un manque de soutien matériel pour les femmes afin qu'elles puissent mener carrière? Est-ce un problème de mentalité? Voilà, on lance le débat par téléphone au 33 9 693 693 70, sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64 et vos réactions nombreuses sur la page Facebook de l'émission Appel sur l'actualité. Mais d'abord, pour commencer, comme chaque jour, vos questions, direction sans tarder, les rives de la lagune Ébrié. Bonjour Malamine.
Bonjour.
Vous êtes à Dabou, c'est à l'ouest d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et vous avez des questions sur l'actualité de vos voisins du Nord.
Oui, oui.
Allez-y Malamine.
Le procès du général Diendéré se déroule actuellement au Burkina Faso pour la tentative du coup d'État de septembre 2015. Qu'est-ce que Diendéré lors de ce procès?
Alors on va faire un point sur ce procès avec Yaya Boudani, notre correspondant à Ouagadougou, qui suit les audiences pour RFI. Bonjour Yaya.
Bonjour François, bonjour Malamine.
Alors, Gilbert Diendéré est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, trahison ou encore meurtre et coups et blessures. Que risque-t-il exactement?
Alors, le général Gilbert Diendéré risque la prison à vie à ce procès. C'est la peine maximale en fonction des charges qui pèsent contre lui, selon le nouveau code pénal par exemple. Si on est reconnu coupable de trahison, on risque la prison à vie. Donc il risque également une radiation des rangs des forces armées burkinabè s'il est condamné à une peine supérieure ou égale à 3 mois de prison ferme ou à 18 mois assortis de sursis. Il est automatiquement radié selon la loi sur le statut du personnel des forces armées nationales.
Yaya, ce procès a débuté il y a un an et demi déjà. 84 personnes sont jugées. Où en est-on de cette procédure? Est-ce qu'on se rapproche du dénouement?
Oui, François, le procès est à l'étape des plaidoiries des avocats des accusés. Alors, les avocats de la plupart des accusés ont déjà plaidé. Il reste encore quelques avocats, parmi lesquels ceux du général Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. C'est après cette étape que le tribunal va entrer en délibération.
Malamine, vous aviez d'autres questions pour Yaya Boudani?
Oui. Pour être plus réellement participé à la lutte contre le terrorisme, comme il s'est dit prêt à le faire?
Alors Yaya, Gilbert Diendéré a assuré être toujours prêt à reprendre du service pour aider à lutter contre les djihadistes qui déstabilisent le pays. Est-ce qu'il pourrait jouer un rôle et si oui, lequel?
Le général Diendéré pourrait bien contribuer à la lutte contre le terrorisme de par sa longue expérience sur les questions sécuritaires. Vous savez bien que pendant longtemps, sous l'ère Compaoré, il était au cœur même du système sécuritaire du pays. Il a, par ses contacts dans le Sahel, participé à la libération des tâches européens, même si cela est diversement apprécié aujourd'hui. Alors, il aurait toujours ce contact, ses sources d'informations dans le Sahel. C'est également par ses sources de renseignements qu'on avait pu retrouver ce qu'il restait de l'avion d'Air Algérie qui s'était écrasé en 2014 dans la région de Gossi, au nord du Mali. Donc, il pourrait contribuer par le renseignement à la lutte, mais cela dépendra aussi des autorités politiques du pays.
Yaya, une dernière question de Malamine.
Au cours de ce procès, connaît-on le rôle joué par Blaise Compaoré lors de ce coup d'État manqué?
Alors Yaya Boudani, les principaux accusés dans ce procès, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, étaient des très proches de Blaise Compaoré. Est-ce que l'ombre de l'ancien président plane sur ce procès?
Non, absolument pas. Durant ce procès, le nom de l'ex-président Blaise Compaoré n'apparaît pas dans le dossier, même si des noms de certains officiers de l'armée et de quelques personnalités politiques du côté de la Côte d'Ivoire ont été cités au cours des débats et que Compaoré vit en exil du côté de la Côte d'Ivoire. son nom n'apparaît pas dans le dossier.
Merci Yaya Boudani d'avoir été en ligne de Ouagadougou. Et merci à Malamine, vous restez auditeur de RFI, fidèle à Dabou, à l'ouest d'Abidjan. Deuxième auditeur en ligne ce matin, c'est Tim à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour François Mazé.
Tim, vous avez des questions sur la résurgence du groupe État islamique en Syrie.
Exactement. Le Pentagone a publié un rapport s'inquiétant de la résurgence de l'État islamique en Syrie. Alors, la première préoccupation, comment expliquer cette résurgence de l'État islamique? Est-ce que cela a un lien direct avec la décision de retrait des troupes américaines?
Eh bien, on va le demander ensemble à Nicolas Falaise. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Du service international de RFI. Nicolas, en début d'année, Donald Trump plastronnait, assurant que Daesh était vaincu à 100%, mais aujourd'hui, son administration montre que c'est loin d'être le cas. Alors, le groupe État islamique est toujours présent, nuisible et réorganisé.
Alors, il a perdu ses territoires, hein, son califat, entre guillemets, mais il y a toujours des combattants. Le rapport dont on parle, le rapport américain, estime que le nombre de combattants du groupe État islamique dispersés, disséminés en Syrie et en Irak, y compris entre 14 000 et 18 000 hommes. Le groupe État islamique a toujours un chef qui s'est exprimé dans une vidéo en avril dernier, toujours un message qui est celui de poursuivre le combat. Et puis il y a toujours ce conflit en Syrie qui crée une situation chaotique, propice à la persistance des cellules et des actions du groupe djihadiste.
Justement, vous parliez de la situation en Syrie. Il y a un retrait partiel des troupes américaines, des troupes qui soutiennent la coalition arabo-kurde qui tiennent certaines zones. Est-ce que la coalition est fragilisée? Est-ce que cela peut entraîner un retour d'une menace djihadiste plus présente?
Alors, c'est ça qui est très très fort dans le rapport du Pentagone. C'est qu'il est mentionné noir sur blanc qu'il y a un lien entre le retrait partiel des forces américaines présentes dans l'est de la Syrie, qui était jusqu'à l'annonce du retrait fin 2018 d'environ de 2000 hommes, un lien entre ce retrait partiel et la résurgence de l'État islamique. Car oui, les FDS, les forces démocratiques syriennes, les alliés de la coalition sur le terrain, ont perdu une partie du soutien, de l'appui, des ressources qui leur servent dans le contrôle de leur territoire et la lutte contre le groupe État islamique. Alors, partant de là, il faut aussi analyser ce rapport comme l'expression des accords, des tensions au sein de l'appareil politique et militaire américain. Lorsque Donald Trump a annoncé son intention de retirer les hommes de Syrie, on a bien vu que tout le monde ne partageait pas son avis. Ça a entraîné la démission du secrétaire à la défense et la démission aussi de Brett McGurk, qui était jusque-là l'émissaire spécial américain chargé de la coalition anti-djihadiste. Dans un texte publié en janvier après sa démission, Brett McGurk a estimé que le retrait partiel allait donner une nouvelle vie au groupe État islamique, et c'est ce que semble confirmer le rapport.
Tim, vous avez une autre question pour Nicolas Falaise.
Oui, exactement. Washington a demandé dans ses rapports un soutien militaire accru de la part des autres membres de la coalition. Est-ce envisageable?
Une plus forte implication des alliés des États-Unis, est-ce que c'est un vœu exaucable, Nicolas?
Alors, Donald Trump le demande de façon permanente à tous les alliés des États-Unis d'en faire plus, toujours pour assurer leur sécurité ou leurs opérations militaires. C'est une facette, évidemment, de sa volonté de désengagement. Des forces spéciales françaises et britanniques sont également déployées en Syrie, en soutien aux forces kurdes syriennes, comme les Américains. Les deux pays, France et Grande-Bretagne, ont forcément été désagréablement surpris de la décision américaine de retrait. On a appris il y a quelques semaines, via un journal américain en ligne, Foreign Policy, que les Français et les Britanniques auraient accepté d'accroître leur présence militaire. Pas sûr que ça compense le reflux des forces américaines qui doivent passer d'environ 2000 à quelques centaines. La question pour l'avenir, ce sera le maintien de ces forces, la force résiduelle américaine, les Français, les Britanniques. Est-ce que ce soutien sera suffisant pour que les forces kurdes syriennes tiennent leur territoire et empêchent la résurgence du groupe État islamique?
Et on suivra cela avec vous, Nicolas Falaise, et avec le service international de RFI. Merci d'être venu ce matin, Nicolas. Nicolas, Tim, est-ce que vous êtes satisfait des réponses apportées?
Exactement, exactement. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous, Tim, d'être en ligne de Kinshasa, où il est 9h20. Nous allons à Banjul maintenant, où nous attend Lamine. Bonjour.
Allô, bonjour.
Lamine, vous avez des questions sur la Corée du Nord. Allez-y.
Eh bien, selon un rapport des Nations Unies, Pyongyang finance ses programmes d'armement à partir des cyberattaques. À ce sujet, je voulais comprendre d'abord en quoi consiste une cyberattaque et quelle est la technologie utilisée par Pyongyang.
Alors, je vais relayer vos questions à Nicolas Arpagian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de cyberdéfense. Votre dernier ouvrage s'appelle « La cybersécurité » et c'est aux presses universitaires de France. Alors, Nicolas Arpagian, on parle de quelques 2 milliards de dollars amassés en un peu plus de 3 ans par le régime de Pyongyang. Concrètement, d'où vient cet argent et comment a-t-il été récupéré ?
Alors, l'essentiel des attaques que l'on peut dater, effectivement, d'il y a 4-5 ans, puisque ça a été à partir du moment où se sont intensifiées les règles d'embargo contre la Corée du Nord et que la solution technique informatique va permettre à Pyongyang de trouver des financements accessoires. C'est-à-dire que vous avez notamment des monnaies virtuelles, c'est-à-dire que ce sont des crypto-monnaies, des monnaies qui sont fondées sur des combinaisons informatiques. Et ces monnaies ont l'avantage d'être anonymes, d'être extrêmement volatile, c'est-à-dire avec un caractère spéculatif. À un moment, leur valeur peut progresser, elle peut perdre également, mais on a vu qu'elle pouvait gagner énormément de valeur, et elles sont convertibles entre elles. C'est-à-dire que si vous avez volé une devise, par exemple une qui s'appelle Bitcoin, vous pouvez la convertir dans une autre qui s'appelle, par exemple, Monero. Et donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui cherche de l'argent, c'est assez utile d'avoir ce type de devise, ce type de monnaie. Alors, comment est-ce que ça s'est passé ? Les cas qu'on a documentés qui datent globalement depuis la fin 2017, alors le rapport des Nations Unies fait remonter cela à 2015, mais là où on a commencé vraiment à documenter cela, c'est printemps 2017, lorsque une grande attaque a concerné beaucoup d'entreprises qui s'est appelée, alors on donne toujours un nom à ces logiciels malveillants, c'est WannaCry, où effectivement on a vu un très grand nombre, plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs dans plus d'une centaine de pays, qui ont été chiffrés, c'est-à-dire que vous ne pouviez plus accéder à vos données, il fallait payer une rançon, et cette rançon précisément était en crypto-monnaie, et donc il fallait passer par une plateforme.
C'est une forme de prise d'otage en ligne, finalement.
C'est de l'extorsion, c'est vraiment de l'extorsion, avec l'idée que vous allez mettre un prix assez bas pour chaque chiffrement, de manière à ce que la victime, en quelque sorte, hésite assez peu en se disant, après tout, si je peux récupérer mon ordinateur, si je peux récupérer mes données, bon, ça vaut le coup que je paye. Donc l'équivalent, souvent le prix moyen était l'équivalent de 300 euros à peu près. Alors vous allez dire c'est peu, mais quand vous le multipliez par des milliers, des centaines de milliers de personnes, parce que c'est automatisable, bah effectivement c'est surtout le fait d'avoir des gains qui ne nécessitent pas de mobiliser beaucoup de personnes, puisque vous allez laisser l'informatique faire pour envoyer les messages infectés, ensuite envoyer le message d'extorsion et obtenir le paiement de manière également électronique. Donc c'est quelque chose qui n'exige pas beaucoup de personnel et qui peut se déployer à l'échelle internationale.
Lamine a une autre question pour vous. Lamine, nous vous écoutons.
Alors, bon, la deuxième question, comment l'ONU a établi le lien entre les cyberattaques et le financement du programme d'armement nord-coréen?
Alors, Nicolas Arpagian, qui sont ces hackers qui travaillent pour Pyongyang, et comment les spécialistes des Nations Unies peuvent-ils assurer que cet argent sert à financer les programmes balistiques nord-coréens en contournant ces sanctions de l'ONU?
Alors, effectivement, ça, c'est là où on peut avoir, enfin, en tout cas, un doute, en tout cas, une interrogation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permet à Pyongyang de récupérer de l'argent frais. Lorsque l'on parle de deux plateformes, alors, il y en a une qui s'appelle Ubyte, qui a été piratée en décembre 2017, une en juin 2018, qui s'appelle CoinRail. Le principe a été qu'il y a eu un message, un email, envoyé à des administrateurs de ces plateformes. Ces emails contenaient des pièces jointes infectées, et c'est ainsi que leurs ordinateurs professionnels ont pu être piratés par les attaquants, et qui à ce moment-là ont pris le contrôle, un peu comme si vous preniez le contrôle de l'ordinateur de votre banquier et que vous procédiez à des virements en votre faveur, et donc des sommes ont été transférées sur des comptes, là également en monnaie virtuelle, qui elles-mêmes ont été ensuite reconverties. Alors l'exploitation de l'argent, c'est-à-dire le recel en quelque sorte de cet argent volé, bah après c'est en fonction des priorités gouvernementales. Là effectivement ma compétence s'arrête, parce que les modalités, l'ONU, le rapport des Nations Unies identifie le l'activité effectivement de d'armes de destruction. C'est vrai que après c'est une priorité politique. L'avantage que permettent ces cyberattaques, c'est surtout de redonner de l'oxygène à Pyongyang, de pouvoir disposer de financement hors des systèmes justement des contrôles financiers internationaux. D'autant plus qu'un certain nombre des personnes, alors c'est pas le cas avec toutes les crypto-monnaies, mais souvent les personnes qui vont utiliser ces monnaies anonymes ne seront pas forcément les premières à porter plainte d'aventure dès lors que cet argent leur aura été soutiré, parce que elles ne tiennent pas assez penchées sur les conditions dans lesquelles elles ont obtenu ces financements. Donc c'est aussi un gain pour l'attaquant de se dire que même si des victimes sont identifiées, celles-ci n'iront pas faire des démarches judiciaires qui d'ailleurs seront en plus complexes à concrétiser et à faire aboutir.
Merci Nicolas Arpajian pour ces explications. Alors pourquoi le programme d'armement ? Eh bien, je complète votre réponse. Eh bien, tout simplement parce que le budget militaire en Corée du Nord est le seul qui est sanctuarisé. Donc forcément, dès qu'il y a un peu d'argent qui rentre dans les caisses, il va directement dans l'appareil militaire. Merci Lamine d'avoir été en ligne de Banjul. Merci pour vos questions. On parle ballon rond maintenant. Judy Kael, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous.
Vous êtes en ligne de Kinshasa, vous vouliez savoir avoir quelques nouvelles du FC Barcelone.
Bien sûr, bonjour Alejandro, Valente également. Sinon j'ai deux petites questions. Je commencerai par la première. Comment Valverde va-t-il bouleverser l'équilibre de l'équipe, notamment au niveau de l'attaque avec cette arrivée d'Antoine Griezmann?
Et voilà, Judy Kael, on va répondre à cela, et vous l'avez anticipé évidemment. Quand on parle du FC Barcelone dans les couloirs de RFI, il y a quelqu'un qui passe une tête, c'est Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour François, bonjour Judy Kael.
Alors Antoine Griezmann, il a signé à Barcelone pour 120 millions d'euros, forcément à ce prix-là, il ne vient pas pour cirer le banc. Qui va en pâtir et comment l'entraîneur du Barça va se débrouiller avec ses autres stars?
Disons que déjà, il l'apporte en plus, on s'était rendu compte depuis le départ de Neymar, il n'avait pas vraiment été remplacé, et Barcelone est resté très dépendant de Messi au niveau de la finition, au niveau des buts. Donc il fallait corriger cette situation. Messi a 32 ans, il est actuellement blessé, il ne jouera pas vendredi par exemple contre Bilbao. Donc il fallait un renfort de poids et Griezmann, me semble-t-il, est le renfort idéal. On l'a vu lors des matchs de préparation, il a monté en puissance. Et il a une attitude très éloignée de celle d'une star qui arrive en conquérant. Il s'est mis au service de l'équipe. Sa capacité à accélérer les jeux, à jouer à une touche de balle, etc. C'est des atouts précieux. Et son entente avec Luis Suarez, on a vu samedi soir face à Naples pour la dernière victoire de Barcelone 4-0, montre que c'est une recrue très prometteuse.
Et alors, donc Griezmann, a priori sûr de jouer, Messi évidemment, c'est Suarez forcément, le troisième, ça laisse Dembélé et les autres sur le banc.
Voilà, disons qu'il y a encore une inconnue, c'est la possible arrivée de Neymar qui est toujours possible. Ça va effectivement créer une forte concurrence dans les secteurs de l'attaque. On imagine mal que si Neymar arrivait, Coutinho, voire Dembélé reste. Tout ça reste à déterminer, mais avoir quatre joueurs de grande qualité en attaque, c'est pas forcément un problème pour un club comme Barcelone.
Judy Kael, une autre question pour Alejandro.
Voilà, pourquoi conserver Ernesto Valverde, sachant que l'objectif du FC Barcelone, c'est la Ligue des Champions, après deux échecs consécutifs, notamment face à l'AS Roma et Liverpool FC?
Voilà, la Ligue des Champions, ça sera le grand objectif du Barça. Deux échecs déjà, on peut dire que c'est sa dernière chance?
Disons que c'est vrai qu'il y a eu ces échecs contre la Roma, un quart de finale il y a un an et demi, contre Liverpool il y a quelques mois en demi-finale, mais Barcelone a gagné le titre espagnol à deux reprises ces deux dernières années, il a fait des bonnes campagnes. Alors la question s'est posée du maintien de Valverde, mais un, il était soutenu par les cadres de l'équipe, et deux, il n'y avait pas d'alternative intéressante à Valverde, donc Barcelone et même Valverde s'était lui-même posé la question, mais finalement toutes les parties sont tombées d'accord pour tenter repartir à l'attaque une nouvelle fois avec une équipe très renforcé comme c'est le cas cette année.
Voilà, le soutien des joueurs, le soutien de l'institution et le coach qui reste sur le banc. Merci à Alejandro et merci à Judy Kael. Vous restez avec nous. Appel sur l'actualité continue juste après le journal.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.